Les séminaires du Collège de France.
Je suis extrêmement heureuse d'accueillir Claude Romano. Claude enseigne à l'Université Paris 4. Il est aussi professeur à l'Université de Melbourne. Ses travaux dans l'ensemble relèvent de ce qu'on pourrait appeler la tradition phénoménologique. Il a écrit un nombre absolument impressionnant de livres, parmi lesquels, et il vient juste de m'apporter le dernier, L'appartenance au monde, L'événement et le monde, 1998, et des livres d'ailleurs qui ont été traduits dans de très nombreuses langues, L'événement et le temps, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Les repères éblouissants, renouveler la phénoménologie. Et ce qui fait l'originalité du parcours de Claude Romano, c'est qu'il a constamment noué un dialogue avec la philosophie analytique, cette mal-aimée en France, comme vous le savez, notamment avec l'œuvre de Wittgenstein et celle de nombreux contemporains comme Vincent Descombes ou Charles Larmor. J'oublie aussi son livre « De la couleur » que je trouve tout à fait remarquable. Il a aussi beaucoup écrit sur la littérature, notamment « Le chant de la vie » sur Faulkner, paru chez Gallimard, un très beau livre. Ses travaux récents, sont une analyse non seulement d'une grande originalité, mais d'une grande profondeur sur les questions philosophiques relatives au « moi », à l'intériorité, à l'action. Et il me faut évidemment, sur ce plan, citer en particulier le monumental « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie » 2019, « La liberté intérieure », une esquisse 2020, « L'identité humaine en dialogue » 2022, « La révolution de l'authenticité à l'âge du romantisme » de Goethe à Nietzsche, 2023, et donc L'appartenance au monde qui vient juste d'être publié. Claude Romano a obtenu, sans surprise, de nombreux prix, dont le prix Morand de l'Académie française, pour l'ensemble de son œuvre. Je suis très heureuse donc de l'accueillir et de lui laisser la parole. Cher Claude, c'est à vous.
Merci beaucoup, Claudine Tiercelin. Merci beaucoup. C'est évidemment un grand honneur pour moi de prendre la parole ici. Alors, dans L'identité humaine en dialogue, livre donc, que j'ai publié il y a quelques années, j'ai défendu la thèse que notre identité à travers le temps est celle des êtres humains que nous sommes et non celle de ce que l'on pourrait attribuer à des moi ou à des selves, selon une tradition qui remonte à Locke. Et dans l'ouvrage qui va bientôt paraître, L'appartenance au monde, je défends l'idée que nous appartenons essentiellement au monde par notre corps et que la philosophie devrait nous conduire à prendre au sérieux précisément cette appartenance. Je voudrais tenter aujourd'hui d'expliciter un présupposé commun à ces deux ouvrages en formulant, dans le cadre de ce séminaire de métaphysique et de théorie de la connaissance, une question qui est assurément une question métaphysique, et je vais faire que de la métaphysique pratiquement, sauf un petit détour par la sémantique. Ce sera aussi ma façon de rendre hommage à l'immense travail de Claudine Tiercelin sur cette chaire et bien sûr dans ses ouvrages et dans ses travaux. Donc cette question métaphysique, quelle est-elle? Elle est très simple. Que sommes-nous fondamentalement? Le « nous » renvoie ici évidemment aux individus présents dans cette salle. En d'autres termes, quelle est notre nature essentielle? La réponse que j'aimerais défendre paraîtra à première vue d'une consternante banalité. Nous sommes essentiellement des êtres humains, des spécimens de l'espèce Homo sapiens. Vaut-il la peine de défendre philosophiquement une semblable platitude? Oui, pour une raison simple, non seulement cette thèse ne fait pas l'unanimité parmi les philosophes, mais si on considère l'histoire de la philosophie sur la longue durée, elle est extraordinairement minoritaire. À cette question, les pythagoriciens et Platon répondent que nous sommes des âmes, Aristote que ce que nous sommes vraiment, c'est notre nous, notre intellect, les stoïciens que nous sommes notre principe hégémonique, Les pères de l'Église, nourris de platonisme et de stoïcisme, que nous sommes des âmes et non de simples animaux. À partir de l'époque moderne, la réponse dominante devient que nous sommes des moi, concept introduit par Descartes, des selves, concept thématisé par Locke, des jeux transcendantaux, comme le diront Kant ou Searle ou le Wittgenstein du Tractatus. En somme, nous sommes toutes sortes de choses, hormis des êtres humains, ou plutôt, si nous sommes cela aussi, c'est uniquement à titre dérivé, pour autant que nous sommes logés ou incorporés dans des êtres humains. La situation a quelque peu changé depuis une vingtaine d'années dans le paysage de la métaphysique contemporaine. Contre la position qui a été longtemps dominante chez Sidney Shoemaker, Derek Parfit, Harold Noonan et de nombreux auteurs défendant dans une veine post-lockienne des critères psychologiques de persistance pour le self, dans son contraste avec justement l'être humain, a pris forme une position qui s'est désignée elle-même du nom d'animalisme. Elle regroupe des auteurs tels que William Carter, Peter Unger, Peter Van Inwagen, David McKee, Eric Olson, Paul Snowden et d'autres. L'animalisme défend une position simple. Ce qui permet de nous identifier et de nous réidentifier au cours du temps est que nous sommes des animaux d'une certaine sorte et donc des organismes caractérisés par une certaine continuité de vie qui se traduit notamment par le métabolisme, c'est-à-dire le renouvellement incessant des cellules dont notre organisme est constitué, préservant néanmoins son fonctionnement et sa structure interne. L'animalisme pourrait être considéré comme le pendant analytique d'un courant qui a été important dans la philosophie continentale du XXe siècle et qui a tenté lui aussi de réhabiliter l'anthropologie philosophique. Je pense à des auteurs comme Arnold Galen, Helmut Plessner, Max Scheler et plus récemment Hans Blumenberg ou Ernst Tugendhat, qui est à cheval entre les deux traditions. Je pense que ces auteurs ont raison et que l'horizon anthropologique de la philosophie ne peut pas être transcendé. Je crois aussi qu'il n'y a pas de raison sérieuse de prétendre le transcender, comme tant de philosophes contemporains ont prétendu le faire, de Marx et Nietzsche, à Foucault et Derrida, en passant par Husserl et Heidegger. Je voudrais donc défendre une position qui a de grandes affinités avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'animalisme, et disant que notre seule identité est une identité humaine. Il y a cependant certains traits de l'animalisme qu'il me semble qu'il faut rejeter, et donc ma position ne sera pas exactement celle-là. Alors, je vous donne un aperçu global de mon exposé. Je vais d'abord, dans un premier temps, justement me démarquer de l'animalisme sur un point essentiel qui est celui des expériences de pensée que l'animalisme met en œuvre. Je vais ensuite donner un argument très général qui me semble valable en faveur de l'idée de notre identité humaine. Et puis, je vais discuter deux grandes objections qui me semblent qu'on peut reconstruire contre cette affirmation. L'une qui vient de la sémantique, et d'une certaine, ce sera mon excursus en dehors de la métaphysique, de la sémantique et d'une certaine interprétation du pronom de la première personne et de son usage, le pronom « je », et d'autre part, des objections métaphysiques, dans un dernier moment, qui consisteraient à dire que si on maintient que nous sommes fondamentalement des êtres humains, nous manquons quelque chose d'essentiel qui serait, disons, la subjectivité même du sujet. Donc voilà un peu le parcours que je vous propose. À première vue, l'animalisme a pour lui l'évidence. Réfléchissons en effet à nos pratiques d'identification ordinaires. Supposons qu'un membre de notre famille tombe dans un état neurovégétatif à la suite d'un accident. Pourrions-nous douter sérieusement que l'individu immobilisé sur un lit d'hôpital soit notre parent du fait qu'il a perdu toute conscience de lui-même et toute continuité psychologique ? Ne lui accorderions-nous pas le même respect et la même affection qu'avant son accident ? Pourtant, le problème que soulève l'animalisme est autre. Il ne tient pas, je crois, à la thèse qu'il formule, mais plutôt au genre de justification qu'il avance en sa faveur. En effet, s'il y a bien un point d'accord entre l'animaliste et le partisan des critères d'identité psychologique, disons l'héritier contemporain de Locke, c'est qu'ils tiennent pour valable et pour philosophiquement concluante les multiples expériences de pensée qui ont été développées dans une immense littérature sur ces questions à partir des années 1960-1970. des machines à répliquer les états cérébraux et à les transférer dans d'autres encéphales, biologiques ou de synthèse, des greffes de l'un ou des deux hémisphères cérébraux sur le tronc cérébral d'un receveur, des greffes de tête, ou même, plus fantaisiste, des dédoublements d'individus par scission à la manière dont se répliquent les amibes, etc. La pertinence philosophique de ce genre de fiction, et je voudrais me limiter ici à celles qui peuvent paraître les plus plausibles, c'est-à-dire toutes celles qui concernent les greffes cérébrales, qui prolongent celle de Locke, par exemple la fameuse expérience de pensée d'un prince qui serait soudain plongé dans le corps d'un savetier, mais qui conserverait tous les souvenirs lui ayant appartenu. Ces expériences de pensée, leur validité donc, ne font pas débat entre les animalistes et leurs adversaires post-lockiens. Mais de telles expériences de pensée sont-elles réellement informatives et éclairantes sur le plan philosophique ? Décrivent-elles autre chose que de simples possibilités logiques ? Donc décrivent-elles des possibilités réelles, qu'elles soient physiques ou métaphysiques ? Je précise que mon propos n'est pas de contester la valeur des expériences de pensée en général en philosophie, et en particulier en métaphysique, mais plutôt de me pencher sur ce type bien particulier d'expérience de pensée sur lequel reposent au fond toutes ces argumentations. Ces exposés commencent généralement par invoquer les acquis de la science. La chirurgie est parvenue, à ce jour, à effectuer des greffes de multiples organes. Les auteurs ont conclu que rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'on puisse accomplir un jour une greffe cérébrale, même si les chances sont minces. Comme le disent la plupart d'entre eux, même si nous ne parvenons jamais à réaliser de telles greffes, l'impossibilité n'en est que technique. Mais une impossibilité technique peut vouloir dire deux choses. Ou bien que la chose est métaphysiquement possible, c'est-à-dire est vraie au moins dans un monde possible, dont les conditions empiriques sont suffisamment proches de celles d'une autre, mais que nous ne disposons pas pour l'heure de la technique pour réaliser cette opération, ou bien, ce qui est très différent, qu'elle est techniquement impossible parce qu'elle est métaphysiquement impossible, et qu'une telle technique est donc impossible à développer. C'est deux lectures très différentes, évidemment. Dans le second cas, on peut douter que les expériences de pensée, si elles portent sur des impossibilités réelles, puissent jeter la moindre lumière sur la nature de notre identité. Or, curieusement, ces questions ne sont que très rarement abordées dans toute cette vaste littérature qui fait comme si la légitimité de ces expériences de pensée allait de soi. La science est généralement invoquée au départ de ces fictions, mais on s'empresse ensuite de la mettre de côté en évitant soigneusement de préciser les conditions empiriques dans lesquelles ces scénarios imaginaires sont supposés se dérouler. La science est utile quand il s'agit de justifier la possibilité de greffe en général, ou quand il s'agit de dire qu'un individu peut vivre de manière quasi normale avec un seul de ses hémisphères cérébraux, mais elle devient superflue lorsqu'il s'agit de se demander si des greffes cérébrales sont tout simplement possibles au regard de ce que la science nous apprend du cerveau, et donc si ces univers fictionnels représentent des mondes possibles et ne nous entraînent pas simplement dans l'univers de la fable. Or, dans l'état actuel de la science, les greffes cérébrales ne semblent pas possibles et même semblent ne pouvoir jamais être possibles. C'est un point, en tout cas, sur lequel règne un vaste consensus au sein de la communauté scientifique. Je me bornerai à mentionner brièvement trois raisons pour lesquelles une greffe cérébrale totale ou partielle sur le tronc cérébral d'un receveur ne semble pas biologiquement et donc aussi métaphysiquement possible. J'en donne trois, mais il y en aurait beaucoup plus en vérité. Tout d'abord, pour qu'il y ait greffe, il faut la formation d'un lien entre l'organe implanté et l'organisme, et donc la production en masse d'un grand nombre de cellules nerveuses. Or, le corps ne fabrique ces cellules que très lentement. Il faudrait donc supposer que le cerveau demeure de longues semaines dans la boîte crânienne du receveur, sans être relié au reste de l'organisme, tout en demeurant en vie, ce qui semble impossible. Deuxièmement, pendant toute l'opération, mais aussi toute la phase de cicatrisation, le chirurgien devrait maintenir la vascularisation du cerveau intacte grâce à une myriade de vaisseaux minuscules qui l'irriguent, car un cerveau qui ne reste que quelques secondes sans l'oxygène apporté par le flux sanguin commence à mourir. Des populations de neurones sont aussitôt irrémédiablement détruites. En l'absence d'une telle prouesse, ce qu'on prélèverait et qu'on grefferait sur le corps d'un receveur, c'est un cerveau mort, et donc on voit mal comment la greffe d'un cerveau nécrosé pourrait permettre de prolonger la vie du receveur. Enfin, troisième raison très générale, s'il y a bien une chose que nous apprenne aujourd'hui la neurologie, c'est qu'à la différence d'un rein ou d'un poumon, dont la structure est très proche d'un être humain à un autre, chaque cerveau est quelque chose d'absolument unique, et dont l'architecture neuronale, le système que forment les myriades de connexions entre les milliards de neurones qui le constituent, est également unique. Cet enchevêtrement complexe, appelé connectome, reflète toute la vie passée de cet animal-là. Non seulement les expériences qu'il a faites, mais toute son histoire, y compris évidemment son histoire organique. Supposer que quelque chose d'aussi individuel qu'un cerveau puisse fonctionner sur un organisme différent de son organisme d'origine, celui avec lequel il s'est développé de manière unique et acquis l'ensemble de ses caractéristiques propres, a autant de plausibilité, et peut-être même moins encore, que de supposer qu'on pourrait faire fonctionner un logiciel Nintendo sur une console PlayStation. Un cerveau est si unique et si dépendant de l'histoire de l'organisme qu'il semble être justement non échangeable. Je ne doute pas qu'on pourrait chercher à contourner certains de ces obstacles empiriques par un surcroît d'imagination. Par exemple, l'usage des cellules souches ou la supplémentation des fonctions physiologiques par des machines, et ainsi de suite. Certains philosophes rétorqueraient probablement que l'imagination en philosophie suffit et que le fait que de tels échanges cérébraux soient imaginables valide les expériences de pensée. Pourtant, nombre d'avancées significatives en matière de philosophie des modalités, depuis le grand livre de Saul Kripke, Naming and Necessity, ont rendu manifeste que l'imagination n'était pas un guide suffisant pour distinguer ce qui est métaphysiquement possible de ce qui ne l'est pas. C'est un point sur lequel Claudine Tiercelin insiste souvent. Certaines choses qui sont imaginables sont impossibles, comme la machine à remonter le temps d'H.G. Wells, et certaines choses possibles sont inimaginables, comme le phénomène de la superposition quantique. Paradoxalement, ces expériences de pensée reposent sur une espèce de scientisme anti-scientifique, si je puis dire. Scientisme parce qu'elle commence de manière à peu près invariable par l'invocation de telle ou telle donnée empirique isolée, par exemple on peut vivre avec un seul hémisphère cérébral. Anti-scientifique parce qu'en réalité, ce que la neurologie et la médecine nous apprennent est soigneusement laissé de côté au cours de ce que Céline aurait appelé une foire d'imagination. Non seulement ces fictions semblent en réalité incompatibles avec les conditions empiriques réelles qui sont celles de notre monde, et donc de tous les mondes possibles qui sont des variantes du nôtre, mais elles sont, je crois, conceptuellement incohérentes. Admettons un instant qu'un cerveau, en tant que siège de la conscience, soit transférable d'une boîte crânienne à une autre. S'il peut être greffé, il doit s'écouler un certain temps entre son extraction et sa liaison au système nerveux d'un receveur. Et compte tenu de l'importance des connexions à rétablir, ce temps se compte en heures et même sans doute en jours. Supposons qu'au bout de quelques heures, l'anesthésie cesse de faire son effet, ce qui est plausible. Le cerveau est alors censé se réveiller. Il se trouve encore dans une sorte de cuve où il est maintenu en vie, mais comme, d'après ses auteurs, il est à lui tout seul, le siège de la continuité psychologique et notamment de la continuité du souvenir, il peut alors, en se réveillant dans sa cuve, se rappeler de ses expériences passées. Supposons qu'il se souvienne de ses vacances aux Maldives. Il s'est rendu sur une île paradisiaque, il y a fait de la plongée sous-marine et s'est doré pendant des heures au soleil sur un transat. Mais il suffit d'exprimer ses prétendus souvenirs pour s'apercevoir aussitôt de l'absurdité de toute cette fiction. Un cerveau ne peut pas se souvenir de s'être rendu aux Maldives, car seul l'être humain auquel il appartenait est allé aux Maldives. Il ne peut se souvenir d'avoir fait de la plongée sous-marine, car un cerveau ne peut être équipé d'un masque et de bouteilles. Il ne peut non plus s'allonger sur un transat en se badigeonnant de crème solaire. Tous ces prétendus souvenirs, et j'insiste sur le fait que le cerveau est ici censé être le lieu où la continuité du souvenir est localisée. Tous ces prétendus souvenirs, dont le cerveau est supposé se rappeler, sont devenus, si on essaie de développer un peu la fiction, en fait des quasi-souvenirs, ou plutôt des pseudo-souvenirs, Car en réalité, tout souvenir en première personne exige l'identité de celui qui se souvient et de celui auquel est arrivée l'expérience au passé. Hein, s'il n'y a plus cette identité, on ne peut plus véritablement parler de souvenir. Donc la continuité psychologique, contrairement à ce que disent tous ces auteurs, n'est pas, dans de tels scénarios, préservée. Supposons d'ailleurs que ce cerveau, dans sa cuve, se dise « j'espère que l'opération se passe bien », la question conceptuelle cette fois, pas empirique, est de savoir si un cerveau peut espérer, s'il peut s'ennuyer ou attendre la fin de l'opération. Des pensées ne sont imputables qu'à un sujet susceptible de les posséder, et ce sujet ne peut être un cerveau, car un cerveau n'est pas le référent du pronom « je ». Il suffit ainsi de donner un peu d'épaisseur à ces fictions, de les développer, puisque généralement elles font une ellipse narrative entre le moment où on endort le patient et le moment où il se réveille dans le corps d'un receveur, pour voir qu'en fait, on ne parvient pas à formuler de manière cohérente ce qu'elles sont supposées dire. À l'opposé de ce scientisme, qui a tendance donc à transformer la science, je crois, en fable, je pense que le philosophe serait mieux inspiré de faire appel à la fable qui s'assume comme telle et dont les conclusions sont beaucoup plus nuancées. L'un des derniers écrits, récits de Thomas Mann, qui est intitulé « Die Vertauschen Köpfe », les têtes interverties, inspiré librement d'une fable sanscrite, le Vetala Pashavimsati, met en scène deux amis d'enfance, Shridaman et Nanda, amoureux de la même jeune femme, qui s'appelle Sita. Celle-ci épouse Shridaman, mais se découvre secrètement amoureuse de Nanda, jusqu'au jour où son époux, désespéré par la situation, décide de se donner la mort en se tranchant lui-même la tête. Puis, lorsqu'il est découvert par son ami Nanda, provoque le suicide de celui-ci, qui refuse de lui survivre et qui exécute le même geste atroce. Découvrant le carnage, Sita veut se pendre, mais la déesse Durga, dans le temple de laquelle s'est accompli le double suicide, arrête son geste et lui promet de ramener à la vie les deux jeunes gens. Dans l'état de trouble et de sidération où elle se trouve, Sita fait une erreur dans le rituel qu'elle accomplit, ce qui a pour effet que chaque tête se ressoude au mauvais corps. Le corps de Shridaman reçoit la tête de Nanda et vice-versa. Or, loin que le récit de Thomas Mann considère comme une question tranchée, si je puis dire, de savoir, dans cette inversion de tête, qui est qui, faisant ainsi du cerveau et de lui seul le siège de l'identité, il ne cesse de questionner cette évidence. Sita est enceinte, mais qui est à présent son mari? Est-ce celui qui possède la tête de son époux, la partie la plus noble de son corps, ou est-ce celui qui possède l'ancien corps de Shridaman, puisque, après tout, seul ce corps est le géniteur de l'enfant? Les deux rejetons des deux héros se disputent Sita, et sont incapables de se mettre d'accord. Ils vont demander conseil à un anachorète qui donne raison tour à tour à celui qui a reçu le corps de Shridaman, puis à celui qui a hérité de sa tête. Sita est d'abord toute heureuse d'avoir pour mari un homme qui à présent dispose à la fois de la noble tête de Shridaman et du corps athlétique et attirant de Nanda. Elle est comblée. Mais très vite, elle se met à dépérir. Elle prend conscience de ce qu'elle n'était pas seulement amoureuse du corps de Nanda et que ce corps ne saurait lui suffire. Elle rejoint donc l'autre des deux rejetons de ce prodige dans la forêt où il s'est retiré pour méditer. Incapable de trouver une issue à cette situation inextricable où l'un des deux amants trompe l'autre avec sa femme mais aussi avec le corps lui ayant appartenu, les personnages décident de s'immoler tous les trois. Là où le philosophe semblait assuré de ses conclusions à des scénarios pseudo-scientifiques, le romancier, au contraire, n'a de cesse de questionner par la fable les réponses trop évidentes. Or, il me semble qu'à tout prendre, ici, c'est le romancier qui a raison. Concernant ses expériences de pensée et d'autres du même type, la conclusion qui me semble la plus plausible est qu'elles ne permettent de rien conclure du tout. Nous ne savons tout simplement pas quoi penser d'une situation dans laquelle le cerveau de A serait greffé sur le corps de B et où B présenterait tous les traits de personnalité et les souvenirs de A. La seule chose que nous serions tentés de dire est que nous ne comprenons rien à ce galimatia et qu'un prodige a dû se produire. Nous ne serions pas dans une meilleure situation pour dire ce qui se passe que si, tout d'un coup, quelqu'un se mettait à léviter devant nous. Loin de nous permettre de tester nos intuitions à propos de l'identité et de la persistance, comme le pensent tous ces philosophes, de tels scénarios ne pourraient, je crois, au mieux, que nous permettre de corroborer des préjugés culturels et religieux relatifs, par exemple, à la survie de l'âme ou éventuellement à notre toute-puissance technologique. Je voudrais donc plaider ici pour une approche de ces questions qui laisse entièrement de côté les expériences de pensée et qui donc reformule le problème à partir d'un autre point de départ. Donc, je voudrais vous présenter ce qui me semble être au contraire un argument défendable hein, pour essayer de soutenir cette thèse en dehors de toute expérience de pensée particulière. Peut-on donc avancer d'autres raisons en faveur de ce que j'appelle notre identité humaine, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle notre identité numérique à travers le temps est fondamentalement celle des organismes vivants que nous sommes. On le sait, le tournant égologique, hein, qui a été pris par la philosophie moderne sur ces questions, a consisté à partir de Locke à distinguer entre l'identité de l'homme, fondée sur sa continuité organique, et l'identité du self ou du moi, fondée sur sa seule continuité psychologique. Ou encore, l'identité de la personne, puisque Locke tient personne et self pour des quasi-synonymes. Ainsi, sans souscrire au dualisme cartésien, selon lequel je suis identique à une pure res cogitans, qui pourrait subsister indépendamment de mon corps, et tout en maintenant que le self ne peut exister qu'incarné, ce qui est la position de Locke, Locke peut défendre une dualité de critères d'identité entre l'homme ou l'animal, si vous voulez, et le self. Dès lors, la question qu'il convient de poser à Locke et aux partisans de la solution qui a été reprise un nombre incalculable de fois et amendée par les philosophes contemporains, donc à tous ces lockiens et post-lockiens, la question qu'il faut poser est la suivante. Si le moi s'identifie par sa continuité psychologique, n'est-ce pas aussi le cas de l'être humain dans lequel il est incorporé ? Celui-ci ne peut-il pas à son tour, en effet, entretenir des pensées à propos de lui-même en usant du pronom « je » et n'a-t-il pas une continuité de souvenirs qui lui permet de s'identifier, de se réidentifier comme le même à différents moments du temps ? Mais si on admet cela, ne faut-il pas en conclure que nos pensées, et notamment nos pensées à propos de nous-mêmes, ont pour sujet non pas un, mais deux penseurs ? Donc, le moi d'un côté, l'homme de l'autre. Comment déterminer alors lequel de ces deux penseurs pense la pensée qui est la mienne présentement ? Par exemple, si en ce moment je pense que je suis un homme, le penseur de cette pensée est-il l'homme, auquel cas cette affirmation est vraie, ou est-ce le moi, auquel cas elle est fausse ? Comment savoir si je suis celui qui pense véridiquement qu'il est un être humain et non pas le moi qui le pense faussement ? Ou dois-je admettre que cette proposition est systématiquement ambiguë et donc impossible à évaluer ? Mais à première vue, rien ne semble rendre l'expression « je suis un être humain » affecté d'une équivoque systématique. Paul Snowden a qualifié ce type de raisonnement « argument de la réduction à l'absurde en faveur de l'animalisme ». Vous voyez pourquoi. Si l'homme ou l'animal est différent numériquement du moi, et si tous deux, l'homme et le moi, sont pourvus de la capacité de penser des pensées, alors toute pensée en première personne doit avoir nécessairement deux sujets, être structurellement ambigu, et par conséquent, si cette pensée porte sur l'homme, par exemple, être à la fois vrai et fausse. Le partisan de l'admission du moi aux côtés de l'être humain, en tant que sujet des pensées en première personne, a alors le choix entre deux stratégies. Première stratégie, refuser de dire que l'un de ces deux penseurs pense cette pensée, et donc refuser la moindre pensée à l'animal humain, hein, réserver la pensée au moi. Ou bien, deuxième possibilité, accepter que cet animal pense l'animal humain, mais lui dénier la possibilité de faire référence à lui-même au moyen de l'indécical « je » et réserver cette possibilité au seul « moi ». Que valent ces deux stratégies ? La première fut celle de Sidney Shoemaker, dans un certain nombre d'articles rassemblés dans son ouvrage Self-Knowledge and Self-Identity. Donc, pour Schumacher, le fait que le soi accompagne le cerveau, comme on dit souvent dans ces débats, dans des fictions de transplantation cérébrale ou de changement de corps, implique que nos conditions d'identité ne sont pas celles d'un organisme vivant. Ce sont celles d'un moi. Inversement, nos pensées doivent pouvoir prendre place dans la trame de la conscience, car elles s'enchaînent logiquement à d'autres pensées. Il s'ensuit que l'animal humain n'est pas le bon substrat des pensées, car il ne possède pas le bon type de persistance. En somme, étant donné que l'homme ne persiste pas en vertu d'une continuité psychologique, puisqu'il peut tomber par exemple dans un état neurovégétatif, il n'est pas un substrat légitime d'attribution de pensée, et il faut en conclure donc que l'homme ne pense pas. Schumacher n'affirme pas expressément ce point, mais il découle de ses prémices. Or, une telle conclusion semble pour le moins incongrue. Si l'homme est celui qui, enfant, a été à l'école, a appris le français et a développé toutes sortes de compétences intellectuelles, comment se fait-il qu'il ne puisse ni penser ni faire référence à lui-même ? Donc cette solution paraît extraordinairement paradoxale. La seconde stratégie, adoptée par exemple par Harold Noonan, consiste à concéder que l'être humain pense, mais à lui refuser un certain type de pensée, les pensées en première personne. Noonan est bien forcé, en effet, pour défendre ce sujet des pensées qu'est le moi, par contraste avec l'être humain, il est bien forcé d'admettre que, prise littéralement, la définition de la personne de Locke, ou du self, pourrait en fait parfaitement s'appliquer à l'homme. Je rappelle cette fameuse définition qui est un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui se peut considérer soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux. Comment dès lors éviter la conclusion que l'homme lui aussi peut user de réflexion, faire référence à lui-même, et donc entretenir exactement le même genre de pensée que le moi, en sorte que leur distinction entre l'homme et le moi devient, sinon franchement absurde, du moins totalement arbitraire. C'est pourquoi Noonan propose de substituer à la définition lockienne du moi une définition plus minimale. Le moi est simplement, dit-il, l'objet de l'autoréférence. Donc on le définit simplement comme le référent du pronom « je ». Cela lui permet d'affirmer que dans le cas où le moi et l'homme coïncident, c'est-à-dire partagent la même matière, ils ne sont pas identiques puisque l'homme peut bel et bien penser des pensées en première personne, mais que dans ses pensées, la référence de « je » n'est pas lui-même, mais son « moi », c'est-à-dire l'objet de l'autoréférence. Ainsi, plutôt que de conclure, vous voyez les contorsions auxquelles il faut se livrer pour sauver ce fameux « moi », plutôt que de conclure que seul le « moi » peut penser des pensées, comme le faisait Schumacher, Noonan conclut que le « moi » et l'homme pensent tous deux et pensent même des pensées en première personne, mais qu'ils emploient « je » différemment, le second pour référer à lui-même, le premier pour référer à un autre, c'est-à-dire à un « moi ». Mais évidemment, la question est, ne tombe-t-on pas ainsi de Charybde dans Scylla ? Noonan remplace une conclusion fortement contre-intuitive par une conclusion qui relève d'un pur mystère. Comment comprendre que deux entités qui sont constituées de la même matière et entretiennent même en apparence les mêmes pensées, y compris les mêmes pensées indexicales, emploient néanmoins le pronom de la première personne différemment et ne fassent pas référence à travers lui au même objet ? On se demande si la solution de Schumacher n'était pas malgré tout un peu plus plausible. On a maintenant affaire à une situation totalement aberrante de deux sujets dotés de deux vies mentales apparemment identiques et qui demeurent néanmoins numériquement distincts et pensent des pensées qui ont en réalité des sens différents, alors même qu'elles s'expriment à travers les mêmes mots. Mais comment le même mot prononcé par la même bouche peut-il avoir deux références distinctes selon qu'il est prononcé par l'homme ou par le moi ? Non seulement cette solution frôle l'absurdité, mais elle ne permet même pas de résoudre le problème auquel elle était censée répondre. Ce problème était celui, je le rappelle, de savoir comment le locuteur peut savoir lequel des deux pense ses pensées, du moi ou de l'homme. Et donc, auquel des deux je fais référence. Et partant, quelle valeur de vérité possède son énoncé ? Noonan n'apporte aucune réponse à ce problème. baptiser, moi, l'objet de l'autoréférence, ne règle absolument pas cette question-là. Il y a plus grave. À présent, lorsque l'homme affirme « je suis un homme », ce qu'il dit est analytiquement faux, puisqu'il ne peut faire référence au moyen du pronom « je » qu'au « moi » et que le « moi », par hypothèse, n'est pas l'homme. L'homme profère donc un énoncé qui est faux a priori. Inversement, « je suis un moi » énoncé par le « moi » devient un énoncé vrai a priori et même analytiquement vrai en vertu de la définition du « moi » comme objet de l'autoréférence. Or, le moins que l'on puisse dire est qu'un tel énoncé, « je suis un moi », ne semble à première vue ni a priori ni analytique. Il me manque quelque chose, c'est quand on imprime chez soi, on fait des bêtises comme ça. Bon, donc je voudrais maintenant, après avoir essayé de donner cet argument tout à fait général en faveur donc, de la position qu'on appelle animaliste, en tout cas de notre identité humaine, je pense qu'il ne suffit pas de dire ce qui ne va pas dans le dédoublement que suppose la position d'un moi entre l'homme et le moi. Il faut encore expliquer, je crois, ce qui nous tente de le faire. D'où vient cette tentation que nous avons de faire cette différence? Et je pense qu'il y a deux sources principales de cette tentation, une source sémantique et une source métaphysique. Et donc ce sont ces deux sources, en quelque sorte, que je voudrais examiner tour à tour. Donc d'abord, une analyse sémantique du pronom de la première personne qui peut nous conduire à penser cela. En effet, un certain nombre d'auteurs ont essayé de proposer, d'ailleurs c'est vraiment la majorité, je crois, ont essayé de proposer une analyse de « je » qui affirme que « je » ne réfère pas, contrairement aux apparences, au locuteur, lequel est un être humain particulier qui prononce ce mot, mais ou bien réfère à autre chose qu'à l'être humain, à moi par exemple, ou bien ne réfère pas du tout, n'a aucune référence. Ce sont ces arguments que je voudrais examiner pour voir s'ils sont suffisamment concluants pour nous conduire effectivement à poser un moi qui soit différent de l'être humain et qui soit le véritable sujet de nos pensées ou de nos expériences. Donc, certains auteurs, alors on peut commencer avec Locke, pour lequel, mais je ne vais pas développer la position de Locke, mais le pronom « je » est en fait systématiquement ambigu. Il réfère tantôt, dit Locke, à l'individu humain, tantôt au self. On trouve cette théorie donc de la double référence dans l'essai. Par exemple, Locke écrit « Nous devons prendre garde à quoi ce mot « je » est appliqué. Il est visible que dans certains cas, il ne désigne autre chose que l'homme. Mais dans d'autres cas, ajoute-t-il, le mot « je » signifie la même personne, c'est-à-dire le même « moi ». Donc ici, une théorie de la double référence de « je ». Mais probablement que la source principale de ces réflexions n'est pas du tout Locke. C'est plutôt souvent une référence wittgensteinienne qui est invoquée, celle du cahier bleu de Wittgenstein, où Wittgenstein distingue entre ce qu'il appelle un emploi de « je » comme sujet, par exemple dans l'énoncé « je crois que P », et un emploi de « je » comme objet dans l'énoncé « je me suis cassé le bras ». Tandis que le second emploi de « je » peut être paraphrasé par « ce corps », le premier emploi ne le peut pas. Certes, Wittgenstein n'en tire pas la conclusion qui était celle de Locke, selon laquelle « je », dans son emploi comme sujet, référerait à autre chose qu'à l'être humain doté de corps, à savoir à un pur moi. Il avance au contraire la doctrine selon laquelle, dans un tel cas, « je », en vérité, ne dénote aucun possesseur, ce que Strawson appellera une doctrine du non-propriétaire ou du non-sujet, qui refuse d'affirmer que des prédicats physiques et mentaux sont attribués à la même entité, qu'il y a un propriétaire commun à ces deux sortes de prédicats. En un mot, pour Wittgenstein, en tout cas pour le Wittgenstein du cahier bleu, car par la suite, cette distinction, il l'abandonnera complètement, l'emploi de « je » comme sujet ne réfère en aucun cas à l'être humain, et c'est ça qui m'intéresse ici. Plus tard, d'ailleurs, dans les notes sur l'expérience privée et les sensei data, il écrira « le mot « je » ne désigne pas une personne ». Par personne, il entend ici, dans le contexte, un être humain. Une telle analyse semble donc à la fois affirmer que « je » est ambigu, puisqu'il possède deux usages bien distincts, et que dans l'un de ces usages, au moins, « je » ne réfère pas à l'être humain, même si, dans le cas de Wittgenstein, il ne réfère pas non plus à un ego cartésien ou à un self lockien. Cette analyse a été, d'une certaine manière, radicalisée par Elisabeth Anscombe dans son célèbre article « The First Person ». Pour cette dernière, en effet, je la cite, « si « je » est une expression référentielle, alors Descartes avait raison au sujet de ce à quoi ce mot réfère. » C'est-à-dire, ici, sous-entendu, à un ego cartésien, à une pure res cogitans. Mais on bute alors sur ce que on pourrait appeler le problème des multiples penseurs, car qu'est-ce qui nous assure en fin de compte, nous dit Elisabeth Anscombe, que « je » ne réfère pas à 10 penseurs pensant à l'unisson la même pensée. En d'autres termes, comment identifier ce penseur? Quels sont ses critères d'identité? Afin de bloquer cette conséquence, il ne reste plus alors, pense Anscombe, qu'à soutenir que la thèse que Wittgenstein n'avait pas expressément soutenue, celle selon laquelle « je » n'est pas du tout une expression référentielle et ne possède, je n'étais pas du tout une expression référentielle et ne possédait donc qu'un usage, dit Elisabeth Anscombe. Cette stratégie, consistant à nier que « je » soit référentiel, pour éviter de dire que « je » réfère à l'être humain, et pour éviter aussi de dire que « je » réfère à moi, à un ego cartésien, cette stratégie radicale donc se fonde sur deux arguments principaux. Tout d'abord, « je », nous dit Elisabeth Anscombe, est différent d'un nom propre, en ce sens que sa référence... Si on continue ici à parler de référence, ce qu'il ne faudrait pas faire si on la suit, sa référence est garantie contre un double échec, d'abord l'inexistence de son objet, et deuxièmement l'erreur d'identification de celui-ci. Ici, comme l'écrit Anscombe, s'emparer du mauvais objet est exclu, et cela peut nous laisser croire que se saisir du bon objet est garanti. Mais la raison en est qu'il n'y a pas du tout ici de saisie du moindre objet. Fin de citation. Pourquoi une telle conclusion? Qu'est-ce qui permet de passer de l'idée de l'impossibilité de l'échec à dénoter le bon objet, comme ça peut arriver pour un nom propre, à l'absence de toute dénotation? La prémisse sous-jacente semble être la suivante. Là où il y a référence, il y a aussi sélection du référent, et donc identification de celui-ci soumise à des critères. Or, ce n'est pas le cas pour l'emploi de « je » comme sujet, qui ne repose pas sur des critères d'identification. Par conséquent, on ne saurait parler ici non plus de référence. Mais cet argument ressemble fort à un non sequitur. Pourquoi, en effet, faudrait-il admettre que, pour que « je » ait une référence, son emploi devrait reposer sur une identification de son référent et sur une identification soumise à des critères? Avoir une référence est une chose, identifier l'objet de cette référence sur la base de critères en est une autre. On trouve le même genre d'argument, à mon avis, non concluant, chez Vincent Descombes, qui écrit dans le complément de sujet « Si le mot « je » avait dans ma bouche une fonction référentielle, il devrait pouvoir être employé à tort. En revanche, s'il était nécessairement employé pour désigner correctement la personne du locuteur, alors, ce mot n'aurait plus cette fonction de sélection du référent que j'ai choisi parmi d'autres qui étaient possibles. » Vous voyez, on associe l'absence de référence à l'absence de sélection du référent, mais ce sont deux choses distinctes. La sélection peut se faire automatiquement sans que j'aie à sélectionner quoi que ce soit. On ne peut pas, je crois, cet argument n'est pas concluant parce qu'on ne peut pas inférer sans plus de ce que la détermination de la référence d'un mot ne repose pas sur l'emploi de critères que ce mot n'a pas de référence. Un second argument d'Anscombe est que, alors toujours un argument pour écarter l'hypothèse que « je » renverrait à l'être humain, est que si « je » est référentiel, s'il doit être analysé comme une espèce de nom pour un objet, elle écrit « nous sommes amené à rechercher quelque chose qui, pour chaque utilisateur de jeu, serait la conception reliée au prétendu non-jeu, comme la conception d'une ville l'est au nom Londres et Chicago. » Fin de citation. En présupposant ici la conception la distinction frégéenne entre sens et référence, Sinn et Bedeutung, le sens étant le mode de donner de la référence, Hans Kombe affirme que pour que je sois référentiel, son emploi doit être gouverné par un concept sortal, de même que la référence de Londres dépend de la compréhension de ce nom comme étant celui d'une ville. Mais pourquoi ne pas admettre que le concept sortal qui gouverne l'emploi référentiel de « je » est tout simplement celui d'être humain ? Je référerai alors à l'être humain qui prononce ce mot, en tout cas jusqu'à ce qu'on découvre des créatures extraterrestres qui emploient le mot « je ». Or, on voit bien pourquoi Hans Kombe rejette une telle solution sans même la considérer. C'est que pour elle, si par hypothèse, je référais à quelque chose, cela ne pourrait être qu'à un ego cartésien, ce qu'elle dit expressément. Nous sommes donc en plein paradoxe. Alors que ces analyses avaient pour but d'écarter une supposée référence de je à un moi, à un ego cartésien, Elisabeth Hans Kombe est forcée de soutenir une thèse qui me semble très contre-intuitive, selon laquelle je serait dépourvu de toute référence. Et donc, Hans Kombe est amené à adopter une analyse sémantique du pronom de la première personne, qui repose sur l'exclusion d'une hypothèse pourtant fort simple, celle qui veut que je référerais au locuteur et donc à l'homme qui prononce ce pronom. Et elle suit en cela le principe de Wittgenstein que je citais tout à l'heure, l'axiome selon lequel le mot « je » ne désigne pas une personne. Ce paradoxe est donc que pour éviter tout ego cartésien et tout self en général, Hans Kombe est obligé d'aller jusqu'à renoncer au caractère référentiel de « je » et donc aussi au fait que cet indexical est gouverné par une règle d'usage simple. « Je réfère à la personne ou à l'être humain qui parle et qui, parce qu'elle est douée de conscience de soi, ou il est doué de conscience de soi, peut faire ainsi référence à lui-même au moyen de ce pronom. » Or, cette stratégie entraîne plusieurs conséquences problématiques. Premièrement, je ne peux plus être tenu pour un indexical du même type que d'autres indexicaux égocentrés, comme par exemple ici ou maintenant, et qui opéreraient de la même manière qu'eux. Tandis qu'ici dénote le lieu où se trouve le locuteur, maintenant le moment où il parle, on ne pourrait pas affirmer de je qu'il se réfère à la personne même du locuteur. Deuxièmement, deuxième conséquence à mon avis problématique, un énoncé tel que « je suis Claude Romano » ne serait plus un jugement d'identité. Dès lors, comment le penser ? Comme une proposition prédicative ? Si c'était le cas, cela nous obligerait à admettre quelque chose comme une propriété d'être. Alors je vais abréger maintenant, je ne vais pas dire Claude Romano, je vais dire CR, ça sera plus rapide. Donc quelque chose comme une propriété d'être CR, à la manière dont certains scolastiques admettaient l'existence d'une propriété qui ne peut être instanciée que par un seul individu, la socratéité. Mais on voit les conséquences délétères d'une telle position. Si je suis CR, n'est pas une proposition d'identité. Alors, un raisonnement du type « je suis en train de parler, je suis CR, donc CR est en train de parler » devient un sophisme par équivocation. Car un tel raisonnement semble à première vue reposer sur la transitivité de l'identité et du reste être valide. Troisième conséquence, si je, contrairement à il ou à elle, ne réfère pas à un être humain, cela rend tout à fait mystérieux la possibilité de paraphraser « salva veritate » un énoncé en première personne par un énoncé en troisième personne. Si Pierre dit « j'ai faim », on peut normalement en inférer « Pierre dit qu'il a faim », ce qui implique que « je » et « Pierre » soient co-référentiels. Si « je » ne réfère pas du tout, cette substitution ne peut plus s'effectuer de manière valide. En outre, les deux énoncés sont rendus vrais par les mêmes faits, même dans des contextes où Pierre aurait oublié qu'il s'appelait Pierre. On voit à quelle contorsion est forcé de se livrer Hans Kombe pour simplement éviter de dire que « je » a le statut d'un indexical qui, dans ses différents emplois, réfère à l'être humain de chair et d'eau qu'il prononce, au locuteur. Contre cette affirmation, Elle avance du reste un troisième argument, qui est celui qu'on pourrait appeler de la privation sensorielle. Supposons que je tombe dans un état où je ne sente plus mon corps, ni ne puisse avoir conscience de son existence. Ne pourrais-je continuer, se demande Anscombe, à former malgré tout des pensées en jeu, des « I thoughts », et me dire par exemple « je ne laisserai plus cela se produire à nouveau ». Ici, Anscombe affirme que, je cite, « si cet énoncé signifie par « je » est ce corps, cet être humain, dans de telles circonstances, il n'est plus présent à mes sens ». Et elle en conclut que « je » ne peut pas référer à cet être humain. Mais à nouveau, je crois que cette conclusion ne s'ensuit pas. En effet, pourquoi faudrait-il admettre que pour pouvoir référer à l'être humain que je suis, et donc à un corps, il faudrait que celui-ci me soit présent en tant que tel? Ne suffit-il pas que j'emploie « je » selon une règle token réflexive propre aux indexicaux et qui est totalement indépendante de mes croyances ou de mes perceptions, et selon laquelle une instance de « je » réfère à « x » si et seulement si elle est prononcée par « x ». Si Anscombe n'a nullement établi par ses arguments que « je » ne peut pas référer à l'être humain, ce n'est pas le cas non plus, je crois, d'autres auteurs qui, partant eux aussi de la distinction wittgensteinienne d'un emploi de « je » comme sujet et comme objet, en ont tiré des conclusions différentes, propres cette fois à encourager l'idée d'une référence de « je » à un « moi » ou un self qui serait numériquement distinct de l'homme. C'est le cas, comme on l'a vu, de Sidney Shoemaker, notamment dans son article « Self-Knowledge and the Body ». Shoemaker y propose une analyse sémantique du pronom de la première personne qui repose sur quatre thèses. Premièrement, « je possède bel et bien une référence » contre Anscombe. Deuxièmement, cette référence est garantie ou immunisée contre toute erreur d'identification ou contre l'inexistence de son référent. Troisièmement, l'usage de « je » comme sujet ne repose pas sur un acte d'identification et pas non plus sur le recours à des critères d'identité. C'est ce que Shoemaker appelle une « criterionless self-ascription » de pensée ou d'état psychologique, donc une auto-ascription ou auto-attribution dépourvue de critères. Quatrièmement, puisque l'on n'a pas recours ici à des critères d'identité, le self auquel on fait référence est un self lockien, de nature purement psychique, qui ne peut nous être présenté dans sa liaison avec un corps et qui est donc distinct de l'être humain. Le sujet de l'autoréférence est une personne entendue comme un pur moi, caractérisé par sa continuité psychologique et au moins notionnellement distinct de l'être humain dans lequel il prend place de manière contingente. En somme, comme l'écrit Shoemaker, des personnes ne sont pas, ou du moins pas essentiellement, des objets matériels et donc évidemment pas non plus des êtres humains. Cette analyse de jeu est-elle plus satisfaisante que celle d'Anscombe? On voit qu'elle reconduit tous les paradoxes analysés précédemment. Lequel des deux, de l'homme ou du moi, est ce jeu qui s'exprime par ma bouche? En outre, si jeu n'a pas la même référence dans son usage comme sujet et comme objet, comment échapper à la conclusion selon laquelle un raisonnement tel que « j'ai le bras droit cassé, je crois qu'en cas de fracture du bras, il faut aller voir un médecin, donc je vais voir le médecin » Comment échapper à la conclusion qu'un tel raisonnement est un sophisme par équivocation, puisque les deux instances de « je », ici l'une « je » comme sujet, l'autre « je » comme objet, ne sont pas co-référentielles. Peut-on conclure de ce que l'usage de jeu ne mobilise pas, dans beaucoup de cas, une identification de celui auquel je réfère, que ce référent n'est pas la personne de chair et d'os? La question qu'il convient de poser, au fond, me semble simple. Y a-t-il quoi que ce soit qui nous interdise d'envisager une analyse sémantique du pronom de la première personne, en vertu de laquelle ce mot non seulement réfère, mais réfère au même objet dans tous ses emplois, à savoir l'être humain? Il me semble que non. Et cette conception simple ou minimale se contenterait d'affirmer trois choses. Premièrement, que je possède une référence à l'égal d'un nom propre, puisque ce pronom peut être remplacé, salva veritate, par le nom propre de X lorsque c'est X qui le prononce. Ici vaut le biconditionnel, l'énoncé de Pierre, je suis G, est vrai, si et seulement si, Pierre est G. Deuxième trait de cette théorie sémantique minimale, hein, je a le statut d'un indexical dont la référence est fixée en vertu de la règle token réflexive suivante, une instance de je réfère à X si et seulement si elle est prononcée par X. Cette règle, pour déterminer la référence, n'exige pas de la part de celui qui emploie je une application à soi-même de critères d'identification, hein, qui pourrait dès lors échouer ou donner lieu à une erreur. Elle diffère donc en cela de la règle qui régit l'usage d'un nom propre. Enfin, le référent de je, même dans le cas où on emploie un verbe psychologique, comme je crois que P, est la personne, au sens de l'être humain, et nullement un moi privé inaccessible aux autres, selon la version de Schumacher. Car la perception de l'individu humain, avec ses traits et ses caractéristiques corporelles particulières, avec le son de sa voix, contribue à la saisie de cette référence. Karl Böhler, le grand linguiste allemand, avait insisté à juste titre sur ce trait dans sa théorie du langage. Il soulignait que l'emploi du déictique « je » est essentiellement lié à ce qu'il appelait un regard physiognomonique et donc à la reconnaissance perceptive par la vision ou par l'audition de l'individualité humaine de celui qui emploie ce pronom. En d'autres termes, la référence de « je » doit être publique et accessible aux autres pour que ce mot puisse avoir un référent quelconque, même dans le cas où l'auto-attribution ne concerne que des verbes psychologiques ou des propriétés psychologiques. Une telle conception, me semble-t-il, permet à la fois de rendre compte de certains traits spécifiques de l'emploi de je, comme son immunité contre l'erreur d'identification, son emploi dépourvu de critères et fondé sur la seule conscience de soi de celui qui l'emploie, ou encore l'asymétrie entre les emplois du prénom de la première personne et du pronom de la troisième personne, tout en évitant de supposer une dualité d'emploi de « je » et donc un emploi de « je » qui ne référerait qu'à un moi privé et non à l'être humain public. J'espère au moins avoir rendu plausible l'idée d'une référence indexicale de « je » à l'être humain, y compris dans l'auto-attribution des pensées. Je voudrais à présent laisser de côté ces questions sémantiques et, pendant le temps qui me reste, essayer de dire un mot peut-être de l'objection principale, qui est l'objection métaphysique. On pourrait objecter donc au type de position que je voudrais défendre que du point de vue métaphysique, elle laisse de côté quelque chose d'essentiel. Elle laisse de côté ce qu'on pourrait appeler la subjectivité même du sujet, sa donation à soi en première personne, en tant qu'elle est irréductible à toute donation en troisième personne. Elle aligne le statut du sujet de nos expériences sur celui de l'homme empirique, situé quelque part dans le monde et doté d'un corps particulier. Un tel argument se trouve chez de nombreux auteurs, à commencer par l'idéalisme allemand, chez Kant, chez Schopenhauer par exemple. Ceux-ci affirment que le sujet de l'expérience ne peut pas être à son tour un objet d'expérience, qu'il n'est, comme le dit Schopenhauer, qu'un point indivisible qui ne fait pas partie du monde. Dans la philosophie contemporaine, un auteur comme Thomas Nagel est un bon exemple de ce genre de position, bien qu'il rejette pour sa part l'idéalisme qui est souvent associé à ce type de position. Si l'on part en effet, affirme-t-il, d'un monde conçu en termes neutres et objectifs, c'est-à-dire d'un monde centerless, comme il dit, acentré, comprenant des êtres humains, il y a un fait surnuméraire qui ne fait pas partie de l'ensemble des faits dont ce monde est constitué, c'est que j'occupe parmi ces hommes le point de vue subjectif de CR et d'aucun autre. Le monde acentré contient certes CR, mais il ne contient pas le fait additionnel que je suis CR, ou que CR, c'est moi. Bref, un seul de ces hommes est le lieu où se localise mon expérience de ce monde et donc la perspective que j'y occupe. Il faut soutenir dès lors qu'en plus des faits objectifs qui correspondent au monde non perspectif ou au point de vue de nulle part sur ce monde, comme dit Nagel, il existe des faits subjectifs comme le fait que j'occupe telle perspective sur ce monde et non pas une autre. Ce second ensemble de faits ne peuvent être exprimés qu'au moyen d'indexicaux. Je dois dire par exemple « je suis CR » ou « CR, c'est moi » ou encore « CR est ici », autre indexical, ou encore « la personne qui parle maintenant est CR ». Sans de tels indexicaux, « je, ici, maintenant », etc., ce point de vue subjectif sur le monde demeure inexprimable. Il n'y aurait donc, si l'on en croit Nagel, une incomplétude, je le cite, « incompleteness of objective reality », une incomplétude de la réalité objective, et il faudrait compléter la description du monde en termes perspectivement neutres par sa description en termes subjectifs qui mentionne mon point de vue sur lui. Cette description part alors de ce que Nagel appelle un « moi réel », « real me », ou ce qu'il appelle aussi parfois un « moi objectif », mais je pense qu'il serait plus clair, en fait, de laisser la notion d'objectivité et de parler, par exemple, d'un « moi subjectif ». On devrait en venir à dire, alors, non pas que « je suis CR », jugement d'identité, mais plutôt que la personne publiquement identifiable CR contient le « moi réel », dit Nagel, contient « the real me ». Comme précédemment, la conséquence de l'introduction d'un moi métaphysique aux côtés de l'homme est que « je suis CR » cesse d'être un jugement d'identité, mais doit être analysé comme un jugement prédicatif. Il revient à attribuer à un sujet une propriété additionnelle, ce que Nagel appelle la propriété exceptionnelle d'être moi. Il y aurait dès lors un étonnement d'être soi qui serait bien distinct de celui d'être tout court. Cet étonnement, Nagel le développe longuement, ce qu'il peut impliquer. Ce fait additionnel, en effet, est un fait entièrement contingent, dit-il, le fait que je coïncide avec un être humain particulier, c'est un fait contingent et même arbitraire, dit-il. Ma coïncidence en tant que moi subjectif avec CR n'aurait donc rien de nécessaire. Il convient toutefois de poser, me semble-t-il, au moins deux questions à Nagel. Premièrement, est-il vrai que « je suis CR » est une proposition prédicative et qu'il y a donc une propriété d'être moi ? Ce qui implique qu'il existe un prédicat, c'est-à-dire quelque chose par essence de général, qui aurait une fonction analogue à un nom propre, c'est-à-dire qu'il ne pourrait s'appliquer par principe qu'à un seul individu. Deuxième question, est-il vrai que la coïncidence de mon moi subjectif avec CR soit un fait entièrement contingent ? On pourrait au contraire affirmer que si on analyse « je suis CR » comme un jugement d'identité, pour toutes les raisons déjà avancées, et si l'on accepte le théorème de la nécessité de l'identité, dégagé par Russ Barkan Marcus, alors le simple fait que je sois CR entraîne aussi que je suis CR dans tous les mondes possibles, et alors il ne s'agit absolument plus d'un fait contingent. Par suite, que je perçoive le monde selon le point de vue de CR ne peut avoir rien de contingent non plus, ni rien qui soit de nature à nous plonger particulièrement dans l'étonnement. Si l'on accepte le dédoublement entre un moi subjectif et l'homme dans le monde, il s'ensuit que les faits relationnels, comme le fait qu'en ce moment je perçoive le monde selon ce point de vue et pas un autre, deviennent aussi des faits intrinsèquement subjectifs, puisqu'ils ne trouvent pas place dans une description objective du monde. Mais une telle description est-elle tenable ? Certes, il semble y avoir un élément de vérité dans les affirmations de Nagel. Nous ne sommes pas seulement des objets dans le monde, des êtres humains pourvus de caractéristiques physiques, nous sommes aussi des sujets d'expérience qui perçoivent le monde depuis un point de vue. Tout cela est trivial. Mais peut-on en conclure que parce que nous sommes doués d'une telle perspective sur le monde, nous ne sommes pas identiques aux êtres humains qui peuplent ce monde et notre point de vue ne fait pas partie d'une description objective du monde, qu'il ne constitue pas un fait objectif comme un autre. Ce qui est la thèse donc de Nagel. Que faut-il entendre par des faits subjectifs ? Et pourquoi de tels faits sont-ils supposés manquer dans une description objective du monde ? En vérité, subjectif peut s'entendre en deux sens bien distincts. D'abord, subjectif peut signifier relatif à un point de vue. Notre connaissance du monde en première personne est assurément subjective en ce sens-là, c'est-à-dire relative au lieu que nous occupons et à nos facultés cognitives contingentes. Subjectif peut aussi s'entendre en un deuxième sens, au sens de simple matière d'opinion. Dire que certains goûts sont subjectifs équivaut à dire qu'en matière de goût, toutes les opinions se valent et qu'il n'existe pas de critères objectifs pour les départager. Il est clair qu'en ce second sens de subjectif, notre connaissance du monde, bien que perspectiviste, n'est pas subjective. On ne peut parler de connaissance que là où il y a quelque chose à connaître, et donc des faits objectifs qui rendent certaines choses vraies et d'autres fausses. La connaissance en première personne est donc subjective au premier sens, au sens de relative à un sujet, c'est-à-dire à sa perspective sur le monde et à ses capacités, tout en demeurant objective au second sens, c'est-à-dire indépendante de ses croyances. Confondre ces deux sens de la notion de subjectivité conduit inévitablement au relativisme. Le fait qu'un jugement tel que « je suis CR » soit relatif à la perspective de celui qui s'exprime, du fait de l'indexical qu'il contient, est alors interprété à tort comme signifiant que ce jugement est également subjectif dans le second sens, est une pure question de point de vue ou est dépourvu de critères objectifs, ce qui est faux. En réalité, un jugement tel que « je vois la salle en face de moi » est relatif à un point de vue, le mien, mais cela ne lui ôte rien de son objectivité et n'en fait pas quelque chose qui ne serait vrai à son tour que selon un point de vue, ce qui conduit à l'absurdité du relativisme. Il faut sur ce point donner raison, je crois, à Hugues Mellor dans son texte intitulé « Analytic Philosophy of the Self » lorsqu'il soutient que la connaissance en première personne, exprimée par exemple par la phrase « je vois la salle depuis l'estrade », doit être certes évaluée quant à sa vérité et à sa fausseté ou à sa fausseté en fonction du point de vue qu'occupe celui qui dit « je », mais que cela n'entraîne en rien la relativité d'un tel énoncé à un point de vue en un sens plus substantiel, c'est-à-dire son absence de critères objectifs et sa réductibilité à une pure question de point de vue au sens d'une pure question d'opinion, sans qu'aucun fait objectif ne puisse dès lors le rendre vrai ou faux. Cet énoncé est subjectif dans le sens de perspective, c'est donc un énoncé relationnel, mais il n'est pas subjectif au sens où il ne serait pas rendu vrai par des faits et ne ferait pas partie donc d'une description objective du monde. Le fait que si je suis identique à CR, je suis nécessairement identique à CR, je suis donc identique dans tous les mondes possibles, a pour conséquence que, contrairement à ce qu'affirme Nagel, le fait que j'occupe la perspective sur le monde de CR est un fait parfaitement objectif et qu'il est tout simplement faux de dire que ce fait n'entre pas dans une description objective du monde. Si par objectif, on entend qui est indépendant de nos croyances et opinions, un tel fait est objectif. Ce qui pourrait nous faire croire le contraire est qu'objectif comme subjectif possède en réalité deux sens. Il veut dire ou bien indépendant de nos croyances, ou bien indépendant de toute perspective et de tout observateur, et donc appartenant à une description absolue du monde, une description où l'homme ne figure plus nulle part. Les vérités de la physique tendent vers ce second type d'objectivité. Elles sont affranchies grâce au raisonnement et à la formalisation mathématique de toute relativité à un point de vue particulier, celui de l'être humain, et décrivent la réalité telle qu'elle est, abstraction faite de nous-mêmes. C'est parce qu'il adopte, sans le dire, ce second concept d'objectivité, celui qui sous-tend la science moderne, que Nagel peut considérer que des énoncés tels que « je suis CR » et « j'aperçois le monde depuis le point de vue de CR » décrivent le monde en termes subjectifs, nous obligeant dès lors à introduire dans notre conception du monde, aux côtés de l'être humain, un second sujet d'expérience, un moi subjectif, qui est simplement localisé dans un être humain et ne coïncide avec lui que de manière contingente, dans la mesure où un tel moi n'a pas de place, pense Nagel, au sein de l'univers de la physique. Un tel moi subjectif devient ainsi le site où se localise un certain nombre de faits intrinsèquement ou ontologiquement subjectifs qui ne trouvent pas place dans une description de l'univers. Mais doit-on ainsi supposer qu'existe, aux côtés de l'homme, un second sujet de pensée et d'expérience, et que son statut de sujet d'expérience représente un fait additionnel, un fait intrinsèquement subjectif, par rapport à tous les autres faits, c'est-à-dire à tous les faits objectifs, y compris mon identité avec CR? C'est ce qu'affirme Nagel. Non seulement il y a des faits qu'un autre que moi ne peut connaître, de la manière dont je les connais en cet instant, parce qu'il ne peut pas occuper ma place, mais il y a des faits que je le suis le seul à pouvoir connaître, parce qu'ils sont, si on peut dire, subjectifs dans leur étoffe même. Ces first person facts n'existent alors qu'en première personne. Mais y a-t-il vraiment des faits radicalement privés ? Puisqu'aucun autre que moi ne peut y avoir accès, y a-t-il des faits qui ne sont tels que pour moi ? S'ils existent, nous nous retrouvons enfermés dans une perspective incommensurable avec celle de tout autre, et il faut supposer l'existence de tant de mondes privés qu'il existe de perspectives absolument privées sur eux. Nous aboutissons au plus parfait subjectivisme et même au solipsisme. Mais avons-nous besoin, j'ai presque fini, avons-nous besoin donc pour rendre compte du fait que les hommes que nous sommes sont aussi des sujets d'expérience, de postuler l'existence de tels faits. On peut penser, comme Hugues Meller, qu'entre l'extrême objectivisme qui affirme que tous les faits ne relèvent que d'une description du monde dans les termes de la physique, ce qu'on appelle aussi le physicalisme, et qui entend donc éliminer de ses descriptions de l'univers toute référence à un observateur, et l'extrême subjectivisme qui postule aux côtés des faits ordinaires une seconde série de faits ontologiquement subjectifs qui ne prennent place que sur le seul théâtre privé de la conscience, il y a place pour une position médiane. Sans le moins du monde nier qu'il existe une connaissance en première personne qui soit relative à mon point de vue et s'exprime dans des énoncés qui contiennent des indexicaux, tels que « je suis CR » ou « j'habite Paris », on peut néanmoins affirmer que ces énoncés en première personne n'expriment pas des faits qui sont eux-mêmes ontologiquement subjectifs. Au contraire, ces énoncés ne peuvent être rendus vrais que par des faits en troisième personne, tels que le fait selon lequel CR habite à Paris. Et même s'il est impossible d'éliminer de ces énoncés les indexicaux qui intègrent mon propre point de vue, il n'en reste pas moins que les conditions de vérité d'un tel énoncé sont de part en part objectives. L'énoncé « j'habite Paris » est rendu vrai par l'effet objectif, premièrement qu'il est formulé par CR et deuxièmement que CR habite Paris. Et vous l'aurez observé, aucun de ces faits ne contient un indexical. En somme, comme l'exprime Hugues David Meller, nous pouvons avoir une connaissance en première personne dans un monde unique et intégralement objectif. Même une affirmation relative à mes sensations du type « j'ai mal à la tête » est rendue vraie par des faits qui ne sont pas seulement des faits pour moi, mais pour tous, à condition d'être reformulés en termes impersonnels, hein, par exemple en disant « CR a mal à la tête ». À aucun moment, nous n'avons besoin donc de postuler un royaume de faits entièrement privé qui exigerait que l'on introduisît un second sujet d'expérience aux côtés de l'homme, un « moi subjectif hein, » qui serait, dans sa nature même, constitué par de tels faits. Certes, on pourrait rétorquer que « j'ai mal à la tête » et « CR a mal à la tête » n'expriment pas des faits équivalents. Je peux connaître le premier tout en ignorant le second, dans des circonstances où j'ignore un fait additionnel, hein, le fait que je suis CR. La signification de ces deux énoncés diffère, de même que la règle d'usage d'un indexical diffère de celle d'un nom propre. Mais cette différence sémantique ne permet pas de conclure que les deux énoncés ne sont pas rendus vrais par les mêmes faits, des faits tout aussi objectifs et impersonnels dans les deux cas. J'habite à Paris et CR habite à Paris sont des jugements qui ont des contenus différents, mais qui, lorsque le premier est prononcé par moi, sont rendus vrais exactement par les mêmes faits, neutres et impersonnels. Le contenu d'un jugement en première personne, comme l'écrit Meller, n'exige l'existence ni de moi en première personne, first person selves, ni de faits en première personne, first person facts. En refusant ainsi le dédoublement entre l'homme et un moi métaphysique, on s'épargne la peine de comprendre comment une seule chose peut être identique à deux choses. Comment un seul et même sujet d'expérience peut être décrit à la fois comme un homme occupant dans le monde une place et comme un point métaphysique, pour reprendre la formule de Schopenhauer, situé hors de monde et irréductible à un tel homme. Alors, dans un article intitulé « Subjective Facts », Tim Crane a critiqué ses conclusions sur la base, et ce sera mon dernier point, d'une expérience de pensée développé par Frank Jackson, qui a été désigné comme l'argument de la connaissance, et qui au départ était destiné à montrer la fausseté du physicalisme. Une femme, Mary, vit toute sa vie dans ce que l'auteur appelle une pièce en noir et blanc, hein, donc il n'y a aucune couleur dans cette pièce, autre que le noir et le blanc, si on considère que ce sont des couleurs. Mais Mary est aussi informée de tout ce qu'on peut savoir des couleurs d'un point de vue physique, sans jamais en avoir vu. Un jour, elle quitte cette pièce et aperçoit pour la première fois une tomate. La question est, ne découvre-t-elle pas alors un nouveau fait subjectif, l'effet que cela fait que de voir du rouge? Mais si on admet cela, on admet que le physicalisme est faux, puisque le physicalisme admet qu'il n'y a que des faits physiques. La conclusion donc de cette expérience de pensée, pour Jackson, est que tous les faits qui existent ne sont pas de nature physique. Un tel argument peut-il être transposé à notre problème? Et prouve-t-il qu'il existe des faits intrinsèquement subjectifs en plus des faits objectifs? Tout d'abord, il convient de remarquer que cet argument doit être modifié pour être pertinent dans le cadre de cette réflexion, puisqu'une chose est de dire que tous les faits sont de nature physique, c'est la thèse physicaliste, une autre, comme je le fais, de dire que tout fait est objectif au sens d'indépendant de nos croyances. Cette deuxième affirmation est compatible avec l'idée qu'il y a plusieurs descriptions possibles et légitimes du monde et que la description physique, bien que la plus fondamentale, ne permet pas de conclure à la fausseté ou à l'éliminabilité des autres descriptions. Cette affirmation est donc compatible avec une position antiphysicaliste et anti-réductionniste. C'est du reste la position de Mellor. Ainsi reformulé, l'argument permet-il de réfuter l'affirmation selon laquelle tous les faits sont objectifs? Permet-il de légitimer l'hypothèse de faits intrinsèquement subjectifs et donc l'introduction d'un moi métaphysique qui serait constitué par de tels faits aux côtés du sujet d'expérience humain? Rien n'est moins sûr. En effet, l'effet que cela fait de voir du rouge, ou à la rigueur l'effet que cela fait de voir du rouge pour un être humain, est un fait en réalité aussi objectif et impersonnel que n'importe quel autre. Dans l'expérience de pensée considérée, Mary apprend indubitablement un nouveau fait, mais ce fait ne peut être qualifié de subjectif que si l'on a déjà souscrit à l'idée que les couleurs sont des sensei data privés, c'est-à-dire si l'on a déjà adhéré à une ontologie du mental radicalement subjectiviste, dans la ligne de l'empirisme britannique par exemple. Mais ne peut-on pas tenir les couleurs pour des propriétés réelles et surtout objectives de notre monde phénoménal, c'est-à-dire de notre monde considéré dans la relativité à nous-mêmes, dans sa relativité à nous-mêmes? Qu'une propriété soit phénoménale implique qu'elle soit relative au sujet, premier sens d'objectif, mais non qu'elle soit dépourvue de toute objectivité, ce qui serait le second sens plus fort. Il y a donc deux raisons pour lesquelles, me semble-t-il, l'argument de Tim Crane n'est pas convaincant. Premièrement, la position objectiviste n'est pas nécessairement identique avec le physicalisme. Deuxièmement, surtout, les couleurs phénoménales ne sont pas nécessairement à comprendre comme des sensei data. On peut défendre, je crois, une thèse réaliste à propos des couleurs et les concevoir comme des propriétés du monde qui ont au moins une certaine indépendance par rapport à nous-mêmes et à nos capacités perceptives. Si telle est la nature des couleurs, alors il faut dire que Mary apprend un nouveau fait objectif, l'effet que cela fait pour un être humain que de voir du rouge, un point c'est tout. On pourrait poursuivre le même genre d'analyse pour d'autres faits prétendument subjectifs, comme l'impression que cela fait pour une chauve-souris de percevoir le monde à l'aide d'un sens analogue à un sonar, pour reprendre un célèbre exemple de Nagel. Ce cas, en réalité, ne pose pas plus de difficultés que le précédent, un objectivisme des faits. Soutenir que tous les faits sont objectifs et que l'introduction de faits subjectifs est superflue pour rendre compte de notre connaissance en première personne, ce n'est certes pas affirmer que tous ces faits seraient accessibles ou connaissables par n'importe quel sujet d'expérience. Je ne peux pas apercevoir le monde comme le ferait une chauve-souris, au moyen de son sens spécial et même unique dans le règne animal, mais cela n'entraîne aucunement que l'effet que cela fait de percevoir le monde de cette manière ne soit pas un fait aussi objectif que n'importe quel autre, simplement un fait soustrait à ma connaissance. Le monde perçu par une chauve-souris est subjectif au sens de relatif à un point de vue, mais cela n'en fait pas quelque chose de subjectif en un sens plus profond, une pure composante du moi subjectif de la chauve-souris, si une telle chose existe. On pourrait en somme résumer la position que je voulais défendre de la manière suivante. Certes, il existe des faits en première personne, si l'on veut dire par là qu'il y a des faits relationnels, comme le fait que je vois en ce moment cette salle en face de moi. Mais ce fait est parfaitement objectif, comme tout autre. Il ne repose sur la supposition d'aucun sujet distinct de l'être humain qui prononce ces mots. Certes, la tentation de supposer un tel moi métaphysique provient de ce que la connaissance en première personne, exprimée au moyen d'un dexico, ne peut pas être retraduite sans perte dans des énoncés exempts d'indexicalité. Mais des caractéristiques sémantiques de ces énoncés, il n'y a aucune raison de prétendre tirer toute une métaphysique du moi. Ce que les égologies appellent le moi se ramène en réalité tout entier au caractère phénoménal et donc à la fois relationnel et perspectif de certains faits, un fait phénoménal étant simplement un fait relationnel, l'apparition de quelque chose pour un sujet de perception. En somme, comme le remarque aussi Kit Fine dans son ouvrage « Modality and Tense », les expériences ont une structuration perspectiviste ou égocentrée, mais cela ne confère aucun statut réel à un prétendu ego dont elles seraient les expériences. Un tel ego est seulement un phénomène qui correspond au caractère de centration perspectiviste de notre expérience et nullement une réalité qui serait distincte de l'homme que nous sommes. Ou, pour le dire autrement, un tel ego n'existe pas au niveau métaphysique comme le lieu supposé où tous les faits égocentrés prendraient place. Bien que la tentation d'en postuler la réalité dérive effectivement de certains traits phénoménaux de notre expérience. Le moi métaphysique en tant que second sujet de mon acte de percevoir aux côtés de l'être humain est donc voué à se dissoudre comme une illusion métaphysique, et l'expression est de Kit Fine. C'est aussi la raison pour laquelle, comme il l'écrit, il n'y a pas de problème spécial de l'identité personnelle pour le moi métaphysique. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu...
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.